Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous sommes mardi matin sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous allons faire une émission spéciale radio. C'est assez amusant. Et notre première invitée a fait un coup exceptionnel, un dictionnaire amoureux de la radio chez Plon. Il s'appelle Franck Lanoux. Et donc, le livre est exceptionnel dans ce sens que normalement, il y a un auteur qui écrit sur un sujet de prédilection. Je ne sais pas, par exemple, Bernard Pivot va faire un sujet littéraire ou Philippe Solers fait Venise ou Hubert Védrine fait la géopolitique. Donc, et là, au contraire, c'est un ouvrage collectif avec toutes sortes de signatures, c'est très impressionnant le nombre de gens qui ont été réunis et des gens un peu de tout horizon, mais qui ont en commun d'avoir un rapport fort avec la radio et d'avoir fait des émissions de radio qui sont très connues ou d'avoir des postes de responsabilité importants dans des radios. Bonjour Monsieur Lanoux.
Bonjour à tous.
Et donc, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ce dictionnaire amoureux de la radio ?
Ça a commencé parce que cette collection est une collection de prestige, une collection bien connue. Vous le rappeliez, c'est une vingtaine d'années maintenant, tout avait été fait, ils n'avaient jamais fait la radio. Donc je leur ai dit, comment ça se fait que la radio n'a pas été faite, c'est pas normal. Alors ils savaient qu'ils devraient la faire un jour, mais jusqu'à présent, les candidats qui s'étaient proposés ne leur plaisaient pas. Et moi, j'ai compris, en fin de compte, leurs difficultés. Et je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est précisément de faire un ouvrage collectif. C'est-à-dire que chaque entrée du dictionnaire, chaque mot, est une définition écrite par une personnalité qui a un rapport avec la radio. Donc j'ai appelé, donc ils ont validé le projet, j'ai appelé beaucoup de personnalités dans le métier, mais aussi des gens moins connus. Alors parmi les personnalités, vous allez retrouver Jean-Pierre Cabache, Alain Duhamel, Rosine Bachelot, Brigitte Lahaye, Laurent Ruquier, Laurent Gérard, Marc-Olivier Faugiel, enfin bref, il y en a 114 comme ça. Chacun a écrit son mot. Et donc, je me suis amusé, en fin de compte, à les faire écrire, chacun son mot, et à sortir ce livre au mois de mai dernier. Et en fin de compte, comme vous avez l'ambition de faire un dictionnaire, bien évidemment, il faut embrasser le sujet dans son entièreté. Donc, j'ai aussi bien des gens qui parlent de métier, des gens qui parlent de programme, qui parlent de technique, qui parlent de valeurs aussi propres à la radio, des choses qui concernent la liberté, qui concernent la passion, qui concernent l'engagement, l'opinion. Et donc, toutes ces personnalités, ensemble, en fin de compte, ont écrit ce dictionnaire. Moi, j'ai écrit trois mots, j'ai écrit sur la puissance, sur l'oreille, et puis sur le logo, parce que le logo, ça en dit beaucoup de la radio, c'est sa seule image. Et donc, comme ça, au travers de ces presque 120 mots, vous avez un tour d'horizon de la radio raconté par les grandes personnalités du métier.
Oui, on va avoir une entrée astrologie, par exemple.
Oui, parce que c'est un élément rigolo des programmes radio. Et donc, j'ai demandé à Christine Haas, qui officie depuis des années sur RTL, d'écrire ce mot-là. Et d'ailleurs, elle nous raconte une histoire assez drôle qui concerne Madame Soleil, qui était une grande voix de la radio, qui racontait qui faisait beaucoup d'horoscopes et d'intervention sur Europe 1, comment un jour elle se retrouve avec un gamin qui vient la voir, qui lui demande un peu son avenir, et lui dit, voilà, mon garçon, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Enfin, elle lui décrit toute sa vie, etc. Et à la fin, le petit garçon dit, oui, excusez-moi, mais je suis une fille. Et donc, elle avait tout vu, sauf bien évidemment le sexe du petit garçon.
Excellent. Et donc on a autoradio, là ça me paraît fondamental.
Ah là, j'ai été chercher Laurent Guimier, oui, parce que la voiture et la radio ont une relation très importante. Pourquoi ? Parce qu'on est seul souvent en voiture, donc bien évidemment la compagnie est importante. La radio c'est un média de compagnie, et c'est le média qui vous accompagne quand vous êtes seul, dans la salle de bain, dans la cuisine, beaucoup dans la voiture. Et donc la relation qu'il y a entre la voiture et la radio est très importante. Et c'est souvent là aussi on peut pousser le son un peu fort. On a le temps de se concentrer sur ce qui est dit. Pour la musique, c'est formidable. En général, une radio maintenant, une voiture est équipée comme un auditorium. Donc vous avez vraiment une très bonne ambiance dans votre voiture. Et donc la relation qu'on a avec l'autoradio est vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai que ça valait la peine de raconter, en fin de compte, comment, en effet, la radio habite, en fin de compte, dans la voiture, cette relation qui existe. Et puis, il ne faut pas oublier que, grâce à l'autoradio, la radio, elle avait quelque part toutes les qualités du digital depuis 50 ans. C'est-à-dire que l'autoradio, le transistor, en fin de compte, est mobile. C'est magique comme instrument d'avoir tout ça dans la voiture. Vous avez 50 radios dans votre voiture, vous pouvez passer d'une à l'autre. Il y a cette impression de gratuité aussi, vous écoutez la radio gratuitement dans votre voiture. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans le digital, cette dématérialisation, cette mobilité, cette gratuité aussi que vous avez aujourd'hui, cette impression que vous avez avec le digital, vos smartphones. En fin de compte, la radio, elle avait toutes ses qualités depuis une cinquantaine d'années, et l'autoradio est vraiment là pour fixer les choses et pour prouver comment, en effet, vous n'êtes pas seul en voiture, comment vous êtes accompagné, et comment cette magie qu'opère le son est particulièrement favorable dans une voiture.
Et donc, oui, elle permettait déjà de sortir des embouteillages, c'est amusant.
Alors, il y a plein de notions pratiques, on apprenait la circulation par l'autoradio, bien sûr.
Ouais. Et alors donc là, ça c'est quelque chose qui m'est encore peu familier, mais qui est vraiment l'avenir, le DAB.
Alors le DAB, c'est une nouvelle, en fin de compte, bande FM. C'est-à-dire qu'on a connu il y a des années les grandes ondes, on a connu après bien sûr la FM, comme on a occupé la FM, et comme aujourd'hui bien sûr la radio s'écoute principalement sur la FM. Et puis en effet, on a le DAB. Alors le DAB, c'est la radio numérique, donc c'est la TNT, en fin de compte, de la radio, c'est la RNT. La radio numérique terrestre, mais en fin de compte, les vertus sont assez faibles. C'est-à-dire que la FM avait un très bon son. Bon, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre voiture, entre chez vous et le travail, la radio fonctionne parfaitement. Vous avez déjà une cinquantaine de radios dans votre voiture ou dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Donc c'est pas un sujet d'offre. Pour la TNT, c'était différent. La TNT, à l'époque, jusqu'en 2005, on a que 5 chaînes chez soi. Et encore, parfois pas toujours très bonnes. La TNT a apporté 30 chaînes. La TNT a apporté une image impeccable. Et donc ça, c'est des choses qui manquaient à la télévision il y a encore 20 ans, alors que la radio, grâce à la FM, elle a plus 40 ans. Donc c'est vrai que le gap entre la TNT et la RNT est relativement différent. Et donc le DAB est un élément qu'il va falloir développer, parce qu'en effet, il n'y a aucune raison que la radio reste analogique comme elle l'est aujourd'hui en FM. C'est vrai que parfois, en limite de zone, il y a des petits grisouillis. Parfois, vous perdez la radio quand vous êtes en voiture. Donc la RNT, le DAB, doit permettre de gommer, en fin de compte, tous ces éléments-là. C'est vrai qu'on aurait bien aimé que cette révolution arrive il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Moi, je me souviens avoir été à une expérimentation de DAB en 92. Donc, vous voyez un peu le chemin qui n'a pas été parcouru pendant toutes ces années. Et donc, on aurait bien aimé que la radio ait cette version numérique depuis très longtemps. Maintenant, il faut y aller, même si, en effet, le gain et les vertus ne sont pas aussi exceptionnels qu'elles auraient pu l'être il y a quelques années.
Bon, il y a une entrée éditorialiste. Il y avait aussi un rapport assez fort, justement, à évidemment, certains chroniqueurs...
C'est eux qui incarnent peut-être parfois le mieux la radio.
C'est l'esprit de la radio.
Oui, parce que vous avez rendez-vous avec eux. Ouais. Vous avez une fidélité énorme. Vous avez confiance dans votre éditorialiste. Vous l'écoutez. C'est pas un ami, mais presque, quoi. Votre relation est presque affective. Et donc, ce rendez-vous est très important pour vous, chaque matin, chaque soir. Et donc, en effet, l'éditorialiste a un rôle très particulier dans la radio. Donc là, bien sûr, j'ai confié à Alain Duhamel le soin d'écrire, parce que c'est quand même son art. Et je pense qu'il raconte très bien avec même des anecdotes incroyables. Ouais. La fameuse anecdote de Philippe Alexandre qui est sur RTL et qui tous les matins écharpe le Premier ministre qui est à l'époque Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy en a un peu assez. Il demande à Alain Duhamel d'organiser un dîner avec Philippe Alexandre pour qu'il puisse s'expliquer sur terrain neutre, on va dire. Alain Duhamel organise bien volontiers le dîner. Ils se retrouvent tous les trois chez Alain Duhamel. Et Alain Duhamel a une règle, c'est à 22h30, tout le monde dehors. Parce qu'il veut se coucher de bonne heure, hors de question que ça traîne. Et donc à 22h30, il signe la fin du dîner. Et Philippe Alexandre propose spontanément à Pierre Bérégovoy, qui est encore Premier ministre, de terminer la discussion, puisqu'il pense qu'ils n'ont pas terminé. Et donc il l'emmène chez lui, il l'emmène dans sa maison. Et donc, les voilà en train de terminer la soirée tous les deux autour d'un verre. Mais le lendemain, donc là, quand même, on se termine un peu tard. Le lendemain, à 8h moins le quart, Philippe Alexandre demandera la démission de Pierre Bérégovoy à l'antenne. Donc, manifestement, la soirée avait été sympathique. Mais Philippe Alexandre, ça l'a renforcé dans sa conviction que Pierre Bérégovoy n'était pas un bon Premier ministre.
Ouais, c'est excellent. Les archives de la radio, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est un aspect que j'ai très peu fréquenté, mais qui est très, très important, c'est l'humour. Il y a des radios entières qui vivent de cette idée de l'humour. Rire et chanson, je crois que ça s'appelle, pour les chauffeurs de taxi. Là, il y a des choses qui
ouais, l'humour, qui sont c'est un exercice très important, la radio. Et les gens attendent beaucoup aussi de bonne humeur à la radio. On a besoin d'être accompagné, d'être... Et donc, l'humour, c'est un élément de la vie. Enfin, on aime bien rire, tous. Et donc l'humour en effet est un élément majeur de la radio. Dans toutes les radios il y a des rendez-vous où en effet on peut rire. Et là c'est Laurent Ruquier qui a accepté d'écrire ce mot. Et alors, il a fait toute une histoire, tout un historique, donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que bon, j'ai Philippe Cavrivière aussi qui écrit dedans, j'ai Jade qui raconte comment on rit à la radio, Laurent Gérard qui lui a voulu absolument avoir le mot humeur pour justement compléter le mot humour. Et donc, en effet, c'est important dans la vie, je crois, de rire, l'humour. Et donc, la radio, qui est le vrai rythme de la vie, qui vous accompagne dans votre vie, se doit aussi d'arriver avec cet élément-là. Alors, il y a des radios qui ne sont pas forcément tournées vers l'humour. Et ce n'est pas grave, puisque la bande FM est très variée, qu'on peut passer facilement d'une radio à une autre. Mais c'est vrai que ça reste un élément majeur, en fin de compte, de beaucoup de radios.
Et puis, l'article local, l'idée de la radio locale.
J'ai demandé à un patron d'une radio locale de nous expliquer ce que c'était que un peu la radio locale. Donc il le raconte aussi avec des anecdotes sympathiques, mais c'est la proximité, c'est-à-dire que la révolution qu'a amené l'avènement de la bande FM, donc là on revient à la création d'Aligre, on revient à l'élection de François Mitterrand, les radios libres, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vécues et qui pèsent quelque part dans l'histoire des médias. Il reste aujourd'hui en France, bien évidemment, des radios associatives et des radios locales. Et elles ont un rôle très particulier dans le panel. On connaît tous les grandes radios nationales qui sont diffusées partout dans le pays. Mais il ne faut jamais oublier que partout, dans chaque ville, même parfois dans des villages, vous avez des radios qui racontent ce qui se passe à proximité de chez vous. Et c'est souvent ce qui passionne le plus les gens. Moi, je partage ma vie entre la région parisienne et le Lot. Et j'adore aussi écouter soit des radios locales, soit ouvrir le quotidien régional pour apprendre, savoir exactement ce qui se passe à proximité de chez soi. C'est même parfois plus important que des événements qui sont souvent dramatiques ailleurs dans le monde. Mais pour vous, pour votre vie, bien évidemment, ce qui se passe à côté de chez vous a une valeur considérable. Et les radios locales jouent ce rôle-là. Elles existent et elles sont souvent très fortes. Hein. Faut pas les ignorer. Alors, on les connaît pas toutes, bien évidemment. Puis c'est une mosaïque, en fin de compte, de multitudes de radios qui couvrent le territoire. Mais localement, elles ont une importance considérable.
Et donc, oui, on a aussi la radio la nuit. Raphaël Enthoven qui vous fait un article sur la philosophie.
Oui, bien sûr. Bah, Raphaël, c'est une grande voix de la radio aussi. On ne l'a pas oublié. Et tout de suite, il a accepté de le faire. Et il est parti, bien sûr, sur son sujet à lui, qui est la philosophie. Mais j'ai ravi d'avoir Raphaël dans ce dictionnaire amoureux de la radio.
Et y a, pour la presse, c'est Yvan Levaille.
Merveilleux. C'est une voix extraordinaire, Yvan Levaille. C'est quelqu'un qui avait mis la revue de presse, aussi bien sur Europe 1 qu'après sur France Inter, à son niveau sûrement le plus formidable. Tout le monde revendique la revue de presse, tout le monde défend cet exercice après avoir écouté un jour Yvan Levaille sur Europe 1 ou sur France Inter. En plus, c'est un garçon d'une générosité extrême. Moi, je ne le connaissais pas, je l'ai appelé, j'étais très timide. Pour moi, c'était une voix de mon enfance. Et tout de suite, il a été emballé par le sujet, il a voulu qu'on se rencontre, il m'a fait 3 versions. Enfin, vraiment d'une générosité, d'une sympathie extrême, d'une grande culture. Et puis, il m'a montré aussi ce que permettait la radio. C'est-à-dire que la facilité qu'on a à produire la radio, ça prouve bien que c'est l'être humain complet qui s'exprime que par la voix, qui n'a que ça. Il n'y a pas d'image pour troubler votre regard, c'est votre voix. Et par là, tout doit passer. Moi, je n'ai pas une voix extraordinaire. J'aurais jamais pu faire d'antenne. J'ai jamais fait autant d'antenne que depuis que j'ai sorti ce dictionnaire. Mais je crois que les gens entendent, en fin de compte, dans la voix, plus ou moins belle, ils vont entendre l'engagement, la passion, parfois la culture, l'envie, l'énergie. C'est ça qui est important. Et là, la radio, par cette absence d'image, elle prouve tout ça. Et Yvan, moi, j'ai compris grâce à lui pourquoi j'aimais beaucoup l'écouter avant. C'est parce qu'en effet, il avait tout ça en lui. Et moi, quelque part, inconsciemment, je l'entendais.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, votre article, il traite de la puissance ?
Oui, parce que je trouvais important de traiter aussi un peu les aspects techniques. Donc, en effet, on parle de... Il y a une présentatrice de France Musique qui parle du casque, parle des émetteurs, etc. Et puis, je me suis pris la puissance parce que, en effet, historiquement, on s'est battu pour la puissance parce que, bien évidemment, à l'époque de la libéralisation des ondes, ils pensaient que les radios allaient se contenter d'avoir des petites puissances, d'être petites radios de quartier ou je ne sais pas quoi. Alors que bon, la radio, c'est un terrain de jeu formidable. Il fallait qu'il y ait toutes les formes d'expression de la radio. Des radios associatives, comme Allegre FM, et puis des réseaux nationaux avec de la musique pour les jeunes. Enfin, il fallait que tout existe quelque part. La radio le permet. Il n'y avait donc pas moyen de faire autrement. Et donc, la puissance a été un élément fort de l'histoire des radios libres, d'arriver à imposer une puissance pour que les radios puissent être entendues comme les autres. Il n'y avait aucune raison qu'on ne puisse pas écouter des radios locales, régionales, nationales, comme on pouvait écouter les grandes radios historiques généralistes. Et donc la puissance était un élément. Et puis après, bien évidemment, j'ai poursuivi cette entrée, cette définition sur la puissance qu'a la radio. Parce que justement, par cette absence d'image, elle obtient des miracles. Et donc, je raconte en effet par quelques anecdotes comment la radio est un média extrêmement puissant, extrêmement fort parce qu'il touche au cœur. Par sa simplicité, il se produit très facilement. Nous, ce qu'on fait en ce moment est très simple. Et donc, la radio, elle a cette force, elle a cette puissance extrême. C'est ça que je raconte dans cette entrée sur la puissance.
Oui, elle est bien, elle peut être hypnotisante, elle peut être divertissante, elle peut être fonctionnelle.
Elle
a toutes les vertus, je suis d'accord.
Elle a toutes les vertus de l'âme humaine, en fin de compte, et de la créativité humaine.
Et alors, c'est Jean-Pierre Foucault qui vous fait un article sur Transistor, c'est vraiment... Oui, toutes les vedettes qu'il y a dans ce bouquin.
C'est très drôle, Jean-Pierre, il m'a dit oui tout de suite, je réfléchis, etc. Et puis le lendemain, j'avais son papier. Le lendemain, il m'avait envoyé. Donc tout de suite, il est parti. Il m'a fait un truc très court, un petit peu en dehors d'ailleurs du format du livre. J'ai dit, Jean-Pierre, je suis embêté. Il m'a dit non, tout est là, tout est dit, etc. Et en effet, il nous raconte sa relation avec le transistor et comment, en effet, sur une génération, le transistor a été une révolution extraordinaire. Enfin, historiquement, la radio, c'est un meuble dans le salon où toute la famille se retrouve principalement en fin de journée le soir pour écouter soit des informations, des chroniques, des jeux, des feuilletons ou des concerts. Et donc, le jour où on a inventé le transistor, donc c'est le petit appareil de poche et en même temps l'autoradio qui va avec la voiture. Alors là, c'est la révolution, parce qu'en effet, la radio est partout, et tout le monde peut écouter son programme, ce qui était un élément qui était majeur, alors qu'à l'époque, l'écoute, elle était collective, elle était familiale.
Et l'arrivée de RTL et puis d'Europe 1, effectivement, c'est le côté...
Tout dans la foulée,
tout ça, le côté ça... pop, la DS en voiture, et puis le transistor, etc., tout ça... Et donc, dans les vedettes, alors, Guy Fawkes, unique, c'est aussi...
Guy Fawkes, c'est un type incroyable.
Il est très, très...
Ouais. Il est très fort, il a une émission de radio le matin et le soir sur la même radio. Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais depuis des années et des années. Et donc, c'est un type qui est impressionnant par sa maîtrise. Et en plus, c'est quelqu'un qui a tout compris de la relation humaine. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de faire un programme pour remplir un tuyau. Il est vraiment en relation intime avec son équipe, d'une part, qui est autour de lui, et les auditeurs qui écoutent la radio. Et cette puissance qu'il a, ce lien immatériel qu'il entretient avec son audience, elle est exceptionnelle. Donc il ne rend pas uniquement un service, il crée un collectif, il crée une collectivité qui a une valeur considérable. Et le succès de Skyrock ne se dément pas, alors que c'est sur un public bien évidemment plus jeune que la moyenne, avec une musique très particulière, mais il n'y a rien à faire. Ils ont produit une équation formidable qui fidélise une communauté comme rare.
Et donc sur le numérique, vous avez le directeur du numérique et de la production de Radio France, Laurent Frisch.
Ça, c'est le génie de la. Je peux le dire, il n'est pas là, donc je ne sais pas s'il le sera, mais c'est vraiment le gars qui a la martingale sur le digital. C'est vraiment lui qui fait qu'aujourd'hui les programmes de Radio France sont très écoutés, parce qu'en effet, il a créé la bonne équation pour faire en sorte de mettre le mieux en avant les programmes de Radio France, tous les programmes de Radio France en digital. Et donc, je voulais qu'il ne nous raconte pas ça, parce qu'il a souvent ses petits secrets qu'il ne partage pas. Mais en tout cas, il me paraissait le mieux à même de nous raconter comment est en train de se transformer la radio avec le digital, qui est une machine incroyable. Tous les Français ont un transistor dans la poche grâce à leur smartphone. Le replay permet d'écouter quand vous voulez ce que vous voulez. Les podcasts ont rajouté une couche à ça. Donc vraiment, il y a des territoires de développement pour la radio formidables grâce au digital. Et c'est Laurent qui le raconte très bien.
Et l'article opinion d'Acier.
C'est sûr que l'opinion est un élément majeur, parce que dans la radio est sûrement l'expression la plus libre. Vous voyez, là maintenant, je peux dire exactement ce que je veux, tout le monde va l'entendre.
Mais il y a eu une guerre pour qu'on puisse arriver à ça, ça n'a pas été tout seul.
Non, bien sûr, c'est normal, on est dans des pays où la démocratie a des visions variables, et donc bien évidemment, tout ça, ça doit s'accompagner, ça doit bouger, évoluer, mais bon, la radio l'a gagné, ça, il n'y a pas de sujet. À la radio, on dit ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas un problème. Et donc l'opinion est un élément majeur, parce que bien sûr, dans la presse, les chroniques sont importantes. À la télévision, vous avez parfois des prises de parole où l'opinion, même elle a pris de plus en plus d'importance depuis une quinzaine d'années sur les antennes de télévision. Mais à la radio, on a cette liberté totale, réelle, sérieuse, assumée, d'être libre. Et donc l'opinion, bien évidemment, a un sens très important. Et puis, c'est rajouté à ça, grâce au smartphone, l'interactivité, les gens qui s'expriment sur les radios, en totale liberté aussi. Et donc, ça, c'est de l'opinion publique, en fin de compte, qui a sa place aussi à la radio. C'est à la radio qu'on le fait le mieux, hein, le courrier électeur, je ne sais pas trop ce que ça vaut. À la télévision, c'est pas très pratique. À la radio, c'est magistral, c'est facile.
C'est une espèce d'agora en direct, comme avant on téléphonait, mais maintenant il y a les messages.
C'est tellement facile que la radio pour ça est formidable. Donc dans l'opinion, il y a bien sûr l'opinion publique qui a du sens.
Je pense, on n'a pas parlé du Sandrine Trenner, directrice de France Culture, l'article podcast.
Elle parle des podcasts, elle. Donc, ouais. Je trouvais intéressant, parce qu'en effet...
C'est fondamental, non, pour ce qui va arriver.
Oui, parce qu'ils sont quand même habitués, avec des très gros moyens, les très gros moyens du service public, à produire des programmes qui doivent rester, qui ne peuvent pas disparaître. Oui, quand on fait un débat d'actualité, on imagine que ce programme a une durée de vie rapide. Mais ce qui est produit par Radio France, qui est produit par France Culture, a une obligation de rester. Et donc, eux, ils ont une bibliothèque extraordinaire. Et en effet, c'est une radio qui peut aussi s'écouter de façon beaucoup moins temporelle que les autres. Et donc, bien évidemment, les podcasts de France Culture ont une valeur considérable. Et c'est très bien de les mettre en avant.
Et votre livre est très complet. Vous avez le président de Médiamétrie. Et c'est fondamental aussi, ça.
C'est l'audience, c'est ce qui permet de calculer, d'avoir un peu la notion de son succès. Et après, bien évidemment, de commercialiser pour les radios commerciales. Et donc, c'est un outil de référence. Alors, pareil, là aussi, il y a beaucoup de débats, beaucoup de critiques sur la façon d'opérer. Mais c'est aussi un collectif. C'est-à-dire que toutes les grandes radios sont en partie prenante dans Médiamétrie. Une sorte de GIE qui associe un peu tous les professionnels, et donc les chiffres ont une valeur. Et en tout cas, chez Médiamétrie, il y a le souci vraiment de bien faire, de bien produire, d'être extrêmement fort. Et quand on compare un petit peu ce qui se passe à l'étranger, l'outil Médiamétrie est vraiment exceptionnel.
Bah, c'est vaseux, c'est du sondage, c'est très difficile.
Oui, c'est du sondage, donc c'est pas de la consommation réelle. Hein. On n'est pas à la caisse d'un hypermarché, on voit passer les boîtes de petits pois et on sait à la fin de la journée combien on a vendu. C'est un sondage, mais là encore, la photographie, elle peut être floue parfois, mais le film est juste. C'est-à-dire qu'on voit bien les radios qui montent, les radios qui disparaissent, les radios qui gagnent de l'audience. Le film est juste. La photographie, parfois, est un peu floue, comme tous les sondages. Hein. Les sondages d'opinion, c'est pareil. Enfin, il n'y a aucun sondage qui avait mis en 2002 Jean-Marie Le Pen au second tour. Pourtant, il y était. Et donc, ça prouve bien que le sondage était un peu flou. Il n'était pas loin dans les sondages. Et puis, le dimanche, quand les gens ont voté, quand on a vraiment compté, ben, il y était. Donc, le sondage, il est flou. Il faut l'admettre, c'est comme ça. Un sondage, c'est flou. Par contre, le film de la succession de tous ces sondages est juste.
Donc, 7 Français sur 10 écoutent la radio ?
Aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça, en fin de compte. La radio, son chiffre de référence, publié par Médiamétrie, on en parlait, c'est l'audience d'une journée en moyenne. Donc, aujourd'hui, en moyenne, il va y avoir 7%, 70% des Français, 7 sur 10, qui vont écouter la radio. Mais dans 3 semaines, ils seront plus de 9 sur 10. Donc, vraiment, les gens n'écoutent pas forcément la radio tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, à peu près 7 Français sur 10 qui vont écouter la radio aujourd'hui.
1000 radios en France ?
Bah plus, parce que enfin, ça dépend comment vous comptez, par nombre d'opérateurs ou par nombre de fréquences. Donc on a 5000 fréquences et en effet environ 1000 opérateurs, 1000 programmes différents. C'est là aussi où le digital est formidable, parce que grâce à votre téléphone, à votre smartphone, vous avez la capacité de les écouter tous. Enfin, voilà, j'imagine qu'en ce moment, mon épouse écoute dans le Lot Aligre FM grâce au digital. Donc, ça, voilà, c'est oui. Possible, grâce au digital, d'écouter toutes les radios du monde partout.
C'est vrai, elle pourrait être à New York et écouter l'interview. Absolument. En direct, c'est fabuleux. Ça, absolument. C'est vraiment une grande chose. C'est. Un sondage qui, comme les autres radios, doit pouvoir aller partout et en tout temps, avec 100 000 interviews par an. C'est une France en miniature qui parle de la radio. Donc ça, c'est 100 000 interviews pour Médiatrie.
Oui, ouais, pour Médiamétrie. Ouais. Pour arriver Médiamétrie. À produire son étude, ils sont forcés comme ça d'interroger plus de 100 000 Français par an.
C'est fou.
Pour arriver à
c'est
produire
ce résultat. C'est complètement fou, oui. Et qu'est-ce qu'on a manqué ? On est presque à la fin là, de votre participation. Qu'est-ce qu'on a manqué d'essentiel ?
On a parlé de liberté. Ça, c'est important pour la radio. Je pense que c'est même majeur. Il y a peut-être un mot qu'on n'a pas dit, c'est la créativité. C'est-à-dire que c'est tellement simple de produire la radio. C'est aussi simple que de l'écouter. Et donc, c'est là où l'homme doit être le plus créatif. Et moi, je suis parfois un peu atterré par la facilité, la reproduction qui est faite en permanence un peu des mêmes formats, des mêmes histoires, des mêmes types d'émissions, alors qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez créatif. Et moi, je dis toujours que l'audience, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des gens qui chaque jour inventent des choses et ils feront une meilleure audience, non pas en reproduisant ce qui existe, mais en inventant, en créant, en arrivant avec des nouvelles idées. Les gens ont besoin d'être étonnés. Je crois qu'on allumait aussi beaucoup la radio pour entendre les nouveaux titres, les nouveaux chanteurs, pour avoir une nouvelle information, pour avoir une nouvelle histoire. Moi, mon premier patron, il y a 40 ans, il me disait « Étonnez-moi, Benoît ». Je ne m'appelle pas Benoît, c'est une chanson bien connue, mais il reprenait ça parce qu'en effet, la radio, elle a ses facultés d'étonner, d'apprendre. Et donc, il faut être créatif. Il faut être tous les jours pareil, parce qu'en effet, tous les jours, on a rendez-vous avec un éditorial, avec un journal, une voix, une radio. Donc, on a un rendez-vous, donc on est un peu tous les jours pareil. Mais en même temps, on doit être tous les jours différent. Et c'est ça qu'à mon avis, la radio doit pouvoir retrouver. Je suis parfois un peu inquiet parce que le digital prend beaucoup de place, la télévision prend beaucoup de place, et que la radio parfois est un peu méprisée, ce qui est dommage, parce qu'elle est tellement souple et facile, que c'est un champ d'expérimentation et de créativité formidable, et c'est ça que la radio doit sûrement retrouver aujourd'hui.
Oui, si on prend par exemple De Gaulle, et puis un événement, et De Gaulle qui fait un discours à la radio, aujourd'hui Macron passe avec des jeunes pour faire l'équivalent. Enfin, il est un peu démago là-dessus. Il va passer avec des gens qui sont sur YouTube.
Oui,
je sais pas
bien
quoi. C'est
sûr,
pas de la radio.
Mais c'est pas
de la télévision non plus.
Bien sûr, mais il y a des révolutions. La technologie nous dicte beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses se sont transformées. Tout à l'heure, on parlait par exemple des formats. Comment les radios se sont formatées. Elles se sont formatées parce qu'on est passé de 3 radios à 1000. Oui. Donc c'est à ce moment-là où en effet les choses se divisent et on doit être spécialiste. Donc la technique, la technologie, elle bouleverse la production. On ne fera pas la même radio. Enfin, c'est normal, tout ça. Donc, il ne faut pas s'étonner ou imaginer une fois de plus que c'était mieux avant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'empêche que il faut être quand même capable d'inventer des choses. Il faut être capable d'apporter du neuf. Les gens, ils veulent du neuf. Ils ne veulent pas avoir tous les jours, tout le temps, toujours pareil. Ils veulent être étonnés. Et la radio, c'est tellement facile que c'est elle qui doit être la meilleure pour étonner les gens.
C'est une vraie philosophie de vie que vous donnez là, parce que justement, je me souviens de mon rapport aux radios libres quand elles ont apparu, et l'invention était constante, évidemment, puisque c'était un peu l'idée. Et
puis
c'était n'importe quoi, mais un type venait avec un manuscrit, et puis on l'autorisait à le lire en direct. Où les gens s'engueulaient, où il y avait enfin des trucs.
Donc aujourd'hui,
il y avait une libération sexuelle aussi sur les ondes qui était absolument extraordinaire, qui avait un impact énorme. Il y avait des nouvelles musiques qu'on n'entendait jamais nulle part. Enfin, tout arrivait. Et puis le formatage est dans la nature humaine, il prend le dessus et tout se formate. Et puis après, il y a eu un versant commercial, certaines de ces radios libres.
Bien sûr, toutes ces étapes-là.
Nova est une chose extraordinaire comme radio, et puis elle a une surface commerciale quand même. Très importante.
Non, c'est sûr, mais il faut faire avec, c'est sûr. Mais il n'y a rien à faire. Enfin, la dimension humaine de la radio est spectaculaire, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, la créativité doit aller avec. C'est humain. Il n'y a pas le choix. C'est humain. Et donc, quand on a perdu la créativité, quand on ne fait que reproduire de l'existant, voire copier les autres, eh bien, on perd des vertus. Et ça, ce n'est pas humain.
C'est vrai que c'est très personnalisé, la radio. Hein. On a quand même pas. C'est pas la télévision, c'est quand même des équipes, c'est des gros morceaux, ou le cinéma, ou d'autres médias. Tandis que la radio, on peut imaginer, comme dans un film hollywoodien qui existe d'ailleurs avec De Niro, il est dans une cave et il fait de la radio tout seul, et puis il improvise, il est en Floride, et c'est d'une beauté totale. Ouais. Il s'appelle The King of Marvin Garden. C'est vraiment très très beau, et ça. C'est pensable. Une petite radio locale, quelqu'un qui bosse tout seul un soir, ça peut marcher. Écoutez, merci.
Non, c'est moi qui vous remercie. J'étais ravi d'être sur Aligre.
Mais c'est formidable.
Et de partager ça avec vous, parce qu'en effet, c'est un livre de partage. On l'a fait à plusieurs. C'est un livre de partage. La radio, c'est du partage. Donc j'étais ravi d'être...
120 contributions, beaucoup de vedettes. Donc c'était sous la direction de Franck Lanoux, Dictionnaire amoureux de la radio chez Plon. Vous pouvez le voir en librairie, et merci. On va écouter un petit morceau de musique.
You to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen. And this is the news.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. I'm
Brezhnev is planning a reunion. He knows that Mr. Brezhnev is planning.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc nous sommes dans La vie est un roman, mardi matin. Et c'est une émission spéciale ce matin consacrée à la radio. Et donc Allegre FM est une radio libre. Et j'ai reçu, envoyé par son éditeur, le troisième tome des chroniques des lundis de Delfeuille de Thon. Et ce troisième tome couvre ces chroniques qui étaient publiées dans le Nouvel Observateur entre 1980 et 1981, donc la naissance des radios libres. Et Defeuille de Thon écrivait, donc, par exemple, le 26 janvier 1981, « Les petites radios libres se font toutes faucher leur matériel par la police les unes après les autres. Un projet d'envergure apparaît, Radio K. » Un émetteur en modulation de fréquence stéréo couvrira à partir de la mi-février une zone allant jusqu'à Marseille. 24 heures sur 24 de radio qui ne sera pas débile, faite par des journalistes qui montent leur propre poste, comme d'autres ont pu monter leur journal. Les frais de fonctionnement seront bien sûr couverts par la publicité. On a un ministre de la Culture, le cas qui s'intitule aussi ministre de la Communication, ce qui veut dire qu'il est chargé d'empêcher la libre communication. Ce Leca, parlant du projet Radio K, emploie des mots outranciers. Il s'agit en fait d'aventuriers qui rêvent de faire main basse sur une partie du marché publicitaire. Faut pas s'énerver comme ça, monsieur Leca. Radio K peut gêner un peu Radio Monte Carlo, laquelle depuis peu émet aussi sur la Côte d'Azur en modulation de fréquence stéréophonique. Un peu seulement, et même très peu. Les auditeurs de Radio K ne seront sûrement pas d'anciens fervents de Radio Monte Carlo. Il est même imaginable que la naissance de cette radio profitera aux radios déjà existantes. Plus il y a de radios, plus les gens écoutent la radio. C'est pas dans les pays à journal unique qu'on trouve les plus forts tirages. À Radio Monte Carlo, on affiche la sérénité. Monsieur Leca devrait en prendre de la graine. S'il parlait sereinement, il ne dirait pas. Ces initiatives ont soi-disant pour objet de développer une radio plus proche des auditeurs. Ce soi-disant de la part d'un ministre de la Culture, ça la fout mal. Et donc je tourne la page, je passe à 2 février 1981, une chronique qui s'appelle « Honte un peu court ». Donc le titre même de la chronique fait référence à la radio. Madame Baudrier fait savoir qu'elle est contente de ses radios bleues, Radio 7, Radio Mayenne et autres Mélin FM. « Ça bouge à Radio France !» s'écrie Madame Baudrier. « Et vive le monopole !» Sauf votre respect, Madame Baudrier, l'idée de créer une poignée de nouveaux postes, elle ne vous est pas venue toute seule. Des gens ont créé des radios. Vous leur avez envoyé les juges et les flics et vous êtes installé à leur place. Le monopole, c'est l'immobilisme. Il a fallu qu'une concurrence apparaisse pour vous réveiller. Si la concurrence lasse des saisies, des gardes à vue, des procès et des amendes, laisse tomber et passe à autre chose, vous vous rendormiriez, Madame Baudrier. Radio 7 pour les jeunes, Radio Bleu pour les vieux. Ce grotesque ne fait pas rire. Jeune ou vieux, c'est la même radio. Le découpage par tranches d'âge est mis là pour faire figure de pluralisme. Dans le même temps que Madame Baudrier caricature ainsi les tentatives qui sont faites d'échapper à son monopole, que fait-elle pour lutter contre le monopole d'en face, celui des périphériques ? Podzebi. Madame Baudrier affecte de croire que Radio K, le projet d'une radio en modulation de fréquence stéréo sur la Côte d'Azur, avec émetteur en Italie, menace son monopole à elle. C'est le monopole des périphériques qui est concerné en réalité. Les périphériques raflent le marché publicitaire aux moindres frais. Radio K vient chasser sur les terres du nouvel émetteur FM de Radio Monte Carlo. La modulation de fréquence, tiens, ça c'est un vrai monopole de Radio France. La stéréo, la qualité du son. Qualité du son dont Radio France ne s'est jamais beaucoup inquiété de faire un argument publicitaire. Ça aurait été trop dangereux pour les périphériques. et on ne semble pas leur vouloir beaucoup de mal au périphérique, à Radio France. Lorsqu'une vraie menace pour Radio France est apparue, voici quelques mois, sur la Côte d'Azur, avec cet émetteur FM stéréo de Radio Monte Carlo, première brèche au monopole technique, Madame Baudrier n'a pas bronché. Maintenant, la voilà qui réunit des conférences de presse parce que le projet Radio K se présente. Elle se réveille à propos de l'un, alors qu'elle continuerait à dormir à propos de l'autre. Il faut mettre ça au compte de la bizarrerie. Madame Baudrier, dans sa conférence de presse, « Les radios commerciales sont de plus en plus riches et entreprenantes. » Eh oui, c'est ce qu'on pourrait vous reprocher, madame. Radio Bleu, tiens, je parle à mon lecteur. Sur quelle longueur d'onde ? Il n'en sait rien, mon lecteur. Qui cause à Radio Bleu ? Sait pas. Qu'est-ce qu'il y a demain matin à Radio Bleu ? Sait pas et peut même pas savoir. Ça ne se trouve nulle part. La longueur d'onde d'Europe 1 est plus connue que la date de la chute de Constantinople. Ils n'ont pas de mal à devenir riches, les concurrents de Madame Baudrier. Ils n'ont pas de mal à de paraître entreprenants. Donc je tourne les pages de ce remarquable ouvrage publié à l'Apocalypse, les chroniques de feuilles de ton. Nous arrivons à la page 200, 2 mars 1981. La triste France des monopoles. Écoutez ça. Quelques 100 000 immigrés du RSS vivent à New York et dans la région de New York. Ils ont maintenant leur radio qui émet en russe. Je me demande l'effet que ce genre de nouvelles fait sur Madame Baudrier, directrice de Radio France, supposée qu'il y ait quelqu'un pour poser la dépêche sur son bureau. Eh oui, madame, les Américains savent que la radio a été inventée et ils s'en servent. Un des arguments pour prolonger la vie des deux monopoles, le privé et le d'État, de la radio en France, c'est « il n'y a pas de place pour tout le monde sur les ondes, donc il ne doit pas y avoir la place que pour, donc il ne doit y avoir la place que pour nous ». Comment font les Américains alors ? Cette radio russe de New York est une radio par câble. Dès son lancement, elle avait 1500 abonnés, avec 5000 abonnés à 20, abonnés, pardon, à $20 par mois, elle bouclera son budget. Les Américains savent que la radio par câble existe et ils s'en servent. Cette radio russe de New York est une vraie radio avec des programmes complets. Par exemple, il y a des programmes réguliers pour les enfants. Madame Baudrier, assise sur son monopole, ne consacre pas une seconde par semaine sur ses postes nationaux aux enfants. Les enfants, la télévision à regarder, se dit Madame Baudrier, chef d'entreprise, chef d'une entreprise qui se prétend concurrente des chaînes de télévision. Madame Baudrier rend de fiers services aux annonceurs publicitaires de la télévision. De Gaulle et ses cocoricos, Pompidou et ses cocoricos, Giscard, la grandeur françoise, la défense de la langue françoise, et tout le baratin et tout le tremblement. Voici qu'en février 1981, on apprend que Radio France Internationale projette d'installer une station d'émetteur relais en Guyane qui couvrirait l'Amérique du Sud en 1984. Enfin, vous voyez donc la tonalité des chroniques de feuilles de ton. Je continue, je tourne, je vais à la page 205. On est le 9 mars 1981. Deux nouvelles radios libres à Paris. Cette semaine, Radio Gilda. Gilda, je tins ma balle au travail, émettra le samedi et le dimanche à partir de samedi 7 mars de 7h du matin à minuit sur 93 MHZ, c'est-à-dire en modulation de fréquence, quelque part entre FIP et France Culture. À partir du lundi 9, Canal 75 émet sur 88.8 MHZ, c'est-à-dire entre France Inter et FIP, 24 heures sur 24. Les brouilleurs vont être sur les genoux. Je passe à la page 210 de toujours ce formidable ouvrage. Nous sommes le 16 mars 1981. Radio Gilda a été magnifiquement brouillée la semaine dernière. Bravo les brouilleurs ! Canal 75 s'est débrouillé tout seul. Au lieu de se payer de plein de pages de publicité dans les journaux, Canal 75 aurait mieux fait de se faire refiler du bon matériel. Les flics ont dû être dégoûtés en saisissant ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Page 236, nous sommes le 18 mai 1981. Et le 18 mai 1981, qu'est-ce qui s'est passé ? un type qui s'appelle François Mitterrand est devenu président de la République. Et donc, truqueur de mots, elle s'appelle la chronique. Lundi matin, Giscard a été viré la veille au soir. Après une nuit passée à klaxonner sous l'orage dans les rues de Paris, je mets la radio, France Inter. Il n'est pas loin de 9h. Ils arrivent à la fin d'une émission qui a commencé à 6h du matin. Un type est en train de dire « Et puis les Français, dans leurs journaux ce matin, découvriront la photo de leur nouvelle présidente. » Non, non et non. Giscard, ces barons d'empire, ces princes de l'ancienne Pologne, ces descendants de bâtards royaux, sa noblesse et sa bourgeoisie à particules, c'est fini. Les Français ont sorti la cour, ils ont sorti la présidente. C'est pas pour avoir arrivé une autre. Daniel Mitterrand, contrairement à la potiche à Giscard, ne sera pas la présidente. Bon, je vous passe tout ça. 250, je tourne les pages. Je vais à la page 250. Nous sommes le 6 juin 1981. Les radios pirates seront-elles bientôt libres ? Le brouillage à Paris a changé. Au lieu d'un sifflement continu qui couvre le poste, il y a maintenant un sifflement toutes les 5 secondes. C'est inécoutable, mais ce n'est plus inaudible. On peut se rendre compte de ce qu'on perd. L'autre soir, sur un poste inconnu, cet extrait du dialogue attrapé entre deux sifflements. Un spécialiste du sommeil s'entretenait au téléphone avec un auditeur. L'auditeur. Se réveiller, c'est moins évident que s'endormir. Ça peut faire une pensée pour la semaine, non ? Et donc, je passe à la page 270. Donc, vous voyez qu'il y a des pages dans ce livre. Ça s'appelle « La télé rationnée », c'est le 18 juillet 1981. La radio en modulation de fréquence à Paris, la seule écoutable, le son est très mauvais et trop mauvais sur les autres. À 9h du soir, FIP s'arrête. À minuit, France Inter. France Culture et Radio 7 s'arrêtent. France Musique s'arrêtait à 2h. Depuis que les radios libres prolifèrent, France Musique s'arrête à 1h. Bref, à 1h, tout le monopole est parti se coucher sur ses deux oreilles de monopole, en laissant l'exclusivité de la radio à une flopée de radios libres qui émettent jusqu'à 3-4 heures du matin. Heureusement qu'elles sont là, les radios libres. C'est une des joyeusetés du monopole de la radio. Le monopole de la radio qui sert à ne pas se servir de la radio. Page 275, on bondit. 25 juillet 1981, toujours. Retour sur Terre, article 1er. Les radios libres ne sont pas libres. C'est la chose à retenir de la déclaration de Georges Filliou au Sénat sur la question. Ne seront tolérées et ensuite validées par la loi, a-t-il déclaré, que les radios de proximité au niveau de la ville moyenne, du quartier ou du canton. Autrement dit, pas d'émetteurs capables, par exemple, de couvrir Paris. Encore moins Paris et sa banlieue. C'est la liberté réduite à la dimension du canton. Radio Monte-Carlo, avec 3 émetteurs de modulation de fréquence stéréo balayant 3 programmes différents, couvre la Provence et la Côte d'Azur. Il y a des gens qui ont droit à un gros canton. Les radios libres ont-elles le droit de se financer par la publicité pour, tiens par exemple, se trouver libre de faire de la radio ? Georges Filliou n'y est pas favorable. En ce qui concerne la publicité, a-t-il déclaré au Sénat, le gouvernement et le Parlement auront à se prononcer pour décider si elle devra être totalement proscrite ou acceptée dans des conditions limitatives, précises et contrôlées. En attendant, elle ne saurait être admise. Faut-il comprendre que si du temps de la droite on prétendait empêcher les radios libres d'émettre sous prétexte de protéger le monopole des radios d'État, du temps de la gauche on entend interdire aux radios libres de fonctionner pour protéger le monopole des radios publicitaires privées ? Un vrai scandale. Donc je passe au 1er août 1981. La chronique s'appelle « Radio médiocrité, priez pour Georges Filliou ». Parmi les dangers qui menaceraient la liberté des radios, si les radios libres n'étaient pas contraintes à se limiter au quartier ou au canton, Georges Filliou cite ce qu'il appelle « radio syndicat » et « radio parti ». Radio parti, imaginez radio PS, à quoi ça ressemblerait ? Au lieu à feu le quotidien combat socialiste, il n'y aurait pas 15 personnes pour écouter ça. Georges Filliou a des arguments faiblards. Je vous parlais la semaine dernière de la reparution de l'hebdo Rakiri, toujours interdit. Il y a une suite. Sur la simple annonce de son intention de paraître, et sans même que le professeur Choron, son directeur, ait eu à le lui demander, le ministre de l'Intérieur avait levé l'interdiction. Ils sont quand même bien, la gauche au pouvoir. Si ça dure, on va fondre. Retour à Georges Filliou. C'est pas simple à résoudre, cette histoire de Radio Libre. Raison de plus pour ne pas s'en mêler les pinceaux avec des idées fausses. Imaginez une équipe qui ne voudrait faire à la radio au début des années 80, qui voudrait faire à la radio au début des années 80 l'équivalent de ce qu'a été pour la presse écrite l'hebdo harakiri au début des années 70. C'est-à-dire créer le choc, faire du jamais entendu. C'est pas à la dimension imposée par Georges Filliou du canton ou du quartier qu'une radio pareille pourrait se faire. On nous présente les radios de quartier ou de canton comme la possibilité pour les minorités d'avoir leur radio. C'est exactement le contraire. Il doit y avoir 3000 cantons en France. Ça veut dire que là où un journal ressemblant à nul autre, exprimant une sensibilité minoritaire, aurait 100 000 fidèles dans la France entière, une radio cantonale qui pourrait avoir le même impact en aurait 3000 fois moins. C'est-à-dire que la radio aurait 33 auditeurs. Autrement dit, elle n'existerait pas. C'est ce qui m'intéresserait, ce serait Radio Jazz. Du jazz 24 heures sur 24. Disques, infos, concerts, musique dans les boîtes, musique au micro, inédit. Sur Paris et sa banlieue, c'est faisable. Sur un quartier, ce n'est pas faisable. Sur un quartier, si vous voulez être écouté, la musique, ça sera Sheila et Dalida. Pas à sortir de là. La parole, ce sera ce qui flatte la majorité des gens du quartier. Sur une faible tranche de la population, pour toucher le minimum de gens sans quoi une radio ne peut fonctionner, il faudra plaire au plus grand nombre. Mais si elle est faite pour lui, le plus grand nombre, à trois pas près, il est le même dans toute la France. Les radios de canton ou du quartier qui subsisteront après un certain temps, ce seront toutes les mêmes. En fait, de minorités qui s'exprimeront, il y aura radio médiocrité partout. On changera de quartier, on retrouvera radio médiocrité. On changera de ville, on retrouvera radio médiocrité. On changera de région, radio médiocrité. Pour entendre quelque chose d'un peu moins conformiste que les radios libres dans le système à Georges Filliou, il faudra écouter France Inter ou Europe 1. Remarquez que ce n'est pas pour lui déplaire à Georges Filliou, à France Inter ou à Europe 1. C'est lui qui choisit le directeur, qui choisit les journalistes et les émissions. Prenez radio immigrée, radio arabe, radio portugais. Sur les métropoles, c'est faisable. Seront contents les immigrés. Sur un quartier ou un canton, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les immigrés? Qu'ils attendent le quart d'heure qui leur sera octroyé par Radio Médiocrité qui détiendra le monopole de fait dans le quartier? Ils attendront même pas, ils en auront rien à foutre. Bon, ben on avance toujours, on passe à la page 316. J'en profite en tournant les pages pour remercier Enrico Mastro Giovanni qui assure la technique de l'autre côté de la vitre. 316. L'hiver de la Saint-François, 21 novembre 1981. Les radios avaient pris la liberté. La loi sociale communiste destinée à la leur reprendre vient de paraître au journal officiel. Dans la foulée, Georges Filliou, ministre chargé de l'interdiction des radios, se répand en discours et en interview. Cette loi qui va maintenant être appliquée, elle était provisoire, c'était promis. Un nouveau débat parlementaire devait avoir lieu au printemps, c'était promis. Un rapport Moineau allait être pris en compte, c'était promis. Le rapport Moineau, Filliou s'assoit dessus. Il le dit entre autres dans d'autres termes dans ses discours et ses interviews. Le provisoire, il s'assoit dessus. Le débat au Parlement, il s'assoit dessus. Les députés ne se déjugeront pas, dit Filliou. Il n'ajoute pas. C'est un ordre, mais c'est sous-entendu. Il n'y aura jamais de publicité sur les radios libres, même réglementées, même un tout petit peu. Filliou, ayant le feu vert du Conseil constitutionnel, va lâcher ses flics et actionner les juges. Il le dit en d'autres termes dans ses discours et ses interviews. Mitterrand ne veut avoir devant lui que les radios contrôlées par lui, des monopoles et celles des amateurs fauchés pleurant des subventions. C'est minable. C'est minable et c'est pas malin. Minable, ça le regarde. Pas malin, ça nous concerne tous. Filliou avait annoncé la couleur dès le début du septennat. Pas de radio Chirac. C'est proprement scandaleux. Chirac aurait pu en faire une histoire à n'en plus finir. Il n'a rien dit. Seulement, sitôt son autorisation des mettre en poche, c'est-à-dire dans quelques jours, Radio Chirac, alias Radio Tour Eiffel, association de 1901, pas de publicité, l'égalité parfaite, couvre la région parisienne avec un émetteur impec, son stéréo. Qui a l'air le plus futé dans l'histoire? Radio Griot-Terret, alias Radio Alpha, seule radio pendant longtemps à être brouillée par Filiou, parce que radio de droite, comment vous pariez qu'elle va reprendre ses émissions bientôt ? La publicité Chirac et Griot-Terret s'en passeront très bien. Pas besoin de ça pour avoir de l'argent, les radios de la droite. Des entreprises paieront leurs animateurs à ne rien foutre et le tour sera joué. La droite aura autant de radios qu'elle voudra, avec autant de professionnels qu'elle en aura besoin. Et en face, qu'est-ce qu'il y aura ? Radio 7, il faut brouiller RFM pour obliger les gens à écouter Radio 7. C'est dire. En face, il y aura des radios militantes qui ressembleront à feu le quotidien combat socialiste. Vous ne vous êtes même pas aperçu qu'il avait existé. Des radios communistes qui seront aussi passionnantes à écouter que l'humanité est passionnante à lire. Ils se fendent la gueule à droite. Toutes les radios modernes qui pourraient faire bouger, rire, danser, c'est-à-dire en fin du compte de gauche, zigouillées par la guillotine afrique de Mitterrand, vont toutes s'éteindre. Dans un an, dans deux ans, il n'y en aura plus une. Il n'y aura plus que les monopoles, on connaît. Les radios propagandes, sionistes, palestiniennes, rose-croix, scientistes, etc. Et les radios de droite à l'ère apolitique. 4 ans devant elles pour rassembler le grand public. Puis dans 4 ans, le grand jeu, la préparation des élections législatives. À ce moment-là, il les regrettera, Mitterrand, les radios faites pour vivre en se marrant. Post-Christum. 1000 excuses, par la force des choses, je n'ai parlé que des radios parisiennes transposées dans votre région. À Paris, en ce moment, la folie, c'est d'écouter chat. 24 heures sur 24, de la variété noire et rien d'autre. À peine un mot par heure, chat, c'est le courrier Serge Currière qui fait un cadeau de ça aux Parisiens. Bon, c'était des extraits des lundis de deux feuilletons. 1980-1981, paru à l'Apocalypse. À la semaine prochaine, merci. Et on passe la longueur d'onde à Cause Commune. Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.